CFM, le mag, tous les jours, 12h30.
Bonjour, bonjour à tous, c'est Joanne pour le mag de CFM de midi. On est ensemble jusqu'à la demi. C'est vendredi et ça serait dommage que je vous annonce pas des choses que je vous annonçais pendant toute la semaine. Alors, par exemple, j'en ai pas parlé, mais il y a Ciné Guinguette à 21h à Saint-Antonin samedi soir. Et il faut y aller parce qu'ils vous filment et puis après vous vous voyez, c'est drôle. Il y a aussi le forum des associations à Caylus, tout l'après-midi, c'est place de la Halle. C'est l'occasion de rencontrer tous les représentants des associations qui sont là. Si vous voulez un peu de culture, de théâtre, d'apéro-concert, de choses sympas, ben c'est les Passagères à Beauregard. On en a parlé cette semaine avec Christophe Merle de la Compagnie du Caméléon. C'est commencé, c'est gratuit dimanche, mais vendredi et samedi, il y a tellement de spectacles que voilà, c'est payant, mais c'est drôlement bien. Et on va y aller tout de suite parce qu'aujourd'hui, mon invité, c'est un bavard. C'est Luc-Henri Fage, qui est très connu dans le monde de la spéléo parce que c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu le commandant Cousteau des sous-mariniers, des plongeurs sous-marins. C'est celui qui a le plus de références en matière de représentation d'exploration souterraine et tout ça parce qu'il est photographe, il est vidéaste, il est réalisateur. Et là, il vient présenter un ouvrage qui sort en souscription. Vous avez encore la possibilité de faire des économies si vous l'achetez maintenant. Donc, Luc-Henri Fage, c'est un peu mon oncle revient d'exploration, il me raconte ses voyages. Moi, je me suis régalé à le rencontrer. Luc-Henri Fage, un voisin qui habite à Jonty sur la commune de Caylus et qui est la plupart du temps à Bornéo, dans des forêts équatoriales et qui en ramène des photos et qui édite des livres. En ce moment, un ouvrage est en souscription, c'est ça?
Oui.
Le plan? C'est-à-dire pour savoir si on le tire à 3000 ou à 15000.
C'est plutôt entre 1000 et 3000. Non, aujourd'hui, on a remarqué quand même que c'est très très difficile de trouver un éditeur pour faire un livre, un beau livre. Et comme on voulait faire un beau livre à des prix, un prix de vente assez bas, on s'est dit qu'on allait faire un circuit de distribution direct. Et le plus simple, c'est de faire de souscription.
Alors, un beau livre, déjà, on peut le savoir parce que vous avez édité quelques pages de test qu'on peut feuilleter voilà. Sur un site internet, dont vous allez dire l'adresse.
On peut aller le voir sur le site internet. C'est le, alors l'association s'appelle Centre Terre, parce qu'évidemment on est des spéléologues, et donc le voyage au centre de la Terre de Jules Verne est un texte, je pense, fondateur dans l'adolescence de pas mal de spéléologues. Et donc l'association s'appelle Centre Terre, et donc le site internet c'est centre-terre.fr. Donc c'est très simple, là-bas on trouvera d'ailleurs tous les comptes rendus de toutes les expéditions qu'on a pu y faire depuis 1995 jusqu'à 2010, la dernière, dans les îles de Patagonie chilienne, qui sont perdues au milieu de l'archipel de Patagonie, sous un climat apocalyptique.
Apocalyptique luxuriant, parce que la végétation pour le coup...
Non, c'est le vent dominant vient du nord-nord-ouest, et sa moyenne annuelle est de 70 km/h.
Ah ouais.
La moyenne annuelle, c'est-à-dire ça tient en compte, ça fait la moyenne du matin jusqu'au soir, enfin de 0h à minuit, et des 365 jours de l'année. Donc il y a souvent des rafales à 120, 140, 150 km/h, et puis quelques rares journées où il n'y a rien, il n'y a pas un poil de vent. Et d'ailleurs en général, ce jour-là, malheureusement, il pleut, une pluie fine, pénétrante et tristouille avec un ciel gris. C'est un endroit extraordinaire, et en même temps... il y pleut plus de 10 mètres par an.
Oui,
c'est des précipitations qui sont 10 fois celles de Paris.
On a l'impression que c'est une autre planète pour le coup.
C'est autre chose.
Et la géologie, et la botanique. Et...
Alors il se trouve que dans ces îles qui s'étalent, en gros, hein, de ce que les Chiliens commencent à appeler la Patagonie, c'est-à-dire Puerto Montt, jusqu'à la Terre de Feu, jusqu'au Cap Horn, il y a un dédale d'îles sur ces 2000 km de côte. Il y en a à peu près 5000. 5000 qui sont quasiment toutes inhabitées.
Et quelquefois même inabordables, justement.
Certaines sont très difficiles d'approche. Et puis, il y a un ferry qui fait la liaison du sud au nord du Chili, parce que le Chili, à cet endroit-là, curieusement, au milieu de l'archipel de Patagonie, à droite, il y a le grand glacier de Patagonie, et après, c'est l'Argentine. Donc, le seul moyen de rallier le nord et le sud du Chili, c'est de passer par la mer. Donc il y a un ferry, une espèce de système pratiquement quotidien de ferry, qui passe par les grands canaux qui sont au centre qui séparent en gros la terre des archipels. Et les deux îles qui nous intéressent sont sur la frange ouest, face au Pacifique. Et à cet endroit-là, l'océan Pacifique ne mérite surtout pas son nom. C'est pas du tout le Pacifique de Tahiti avec les lagons et les cocotiers. C'est un Pacifique déchaîné avec ce vent à 70 km/h en moyenne, avec des houles profondes, avec des récifs qui apparaissent et qui disparaissent à chaque vague, avec bref une ambiance sauvage que je crois que j'ai jamais rencontrée ailleurs sur la Terre.
Alors vous en avez ramené et des films et des photos, bien entendu, et des récits de voyage.
Ouais.
Là, par exemple, moi je me souviens du mystère de la baleine, cette fameuse grotte plus haut que le niveau de la mer.
C'est justement une des grottes qui est sur la façade pacifique de cette île, Madre de Dios, où on a eu la bonne fortune de débarquer en 2000. Il y a deux d'entre nous qui ont réussi à se jeter du canot sur un rocher et arriver à la nage dans l'intérieur de la grotte qui était gigantesque. L'entrée, le porche de la grotte, on y mettrait Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire c'est vraiment 70 mètres de haut, 50 mètres de large, presque 200 mètres de long. C'est une nef souterraine et puis dedans, plus ils approchaient du fond et plus ils remarquaient des trucs bizarres comme des gros ossements. Des grandes côtes, des crânes, et en fait il y a une dizaine de vestiges, une dizaine de baleines différentes qui se sont échouées dans cette grotte. Et la grande question, c'était de savoir comment ils étaient arrivés là-dedans. Voilà. Donc le film que j'avais tourné en 2006 et 2008 dans les deux expéditions s'appelait Le mystère de la baleine parce qu'on a réussi à lucider, à proposer une solution, une explication au fait de trouver des ossements de baleines à 42 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui est quand même pas banal, comme sachant que l'homme ne peut pas y aller, et puis je vois vraiment pas pourquoi quelqu'un aurait déplacé un crâne de baleine qui doit peser 4 ou 5 tonnes pour aller le mettre à 30 ou 40 mètres de hauteur.
Pour que les auditeurs deviennent pas fous, dites-leur, est-ce que c'est la terre qui est montée ou est-ce que c'est la mer qui est descendue?
Alors c'est un peu des deux.
Ouais, voilà.
C'est que, en fait, ces îles, il y a 10 000 ans, étaient recouvertes de glace. D'ailleurs, c'est les glaciers qui ont raboté des profondes vallées glaciaires qui forment aujourd'hui les canaux, ce qu'on appelle les canaux de Patagonie. C'est les anciennes vallées glaciaires qui ont été creusées pendant 15 ou 20 000 ans par les dernières glaciations. Et quand la glace a fondu, qui recouvrait parfois 4 km d'épaisseur de glace, donc 4 km de glace, ça a un poids, ça pèse. Ça pèse sur le sol. Et ce sol rocheux, il est relié au magma terrestre. Et donc, on a ce magma liquide. Eh bien, il amortit une partie du sol, de la roche, et il s'enfonce. Et quand la glace fond, il est moins enfoncé, donc il va lentement se relever. Mais il se relève pas d'un seul coup, parce que le magma, il est quand même visqueux. Il va remonter par à-coups, un peu avec les tremblements de terre, un peu avec des phénomènes géophysiques, qui font que d'un coup, il va remonter de 60 cm. Puis 5000 ans plus tard, il va remonter de 1 mètre, etc. Et on en voit les traces comme ça. Et donc, à un moment donné, la grotte était plus basse. Et puis, la mer, elle est remontée. Elle est remontée beaucoup plus haut, parce qu'elle est remontée de 120 mètres à la fin des glaciations. 120 mètres de remontée positive, et bien ça a ennoyé toutes ces vallées glaciaires, ça a séparé ces anciennes îles. Ça a fait des îles de tous ces restes que les glaciers n'avaient pas creusé. Et on a, dans la grotte de la baleine, des baleines qui sont dispersées un peu partout. Mais pourquoi? Parce que ça ne suffit pas. L'explication entre la remontée de la mer et le fait que ça fait un battement de 10 mètres. Mais 10 mètres, ça explique pas pourquoi il y a des ossements de baleines à 42 mètres au-dessus de la mer. Et l'explication serait celle d'un tsunami. Et un tsunami, on en a vu. Enfin, les membres de l'expédition 2010 en ont vu. On l'a vécu dans leur chair parce qu'ils étaient au Chili au moment où il y a eu le grand tremblement de terre qui a détruit Concepción au centre du Chili, et avec un tsunami qui a déposé notamment un bateau de 165 mètres de long, le Tacora, sur un quai. Donc la vague est arrivée, a soulevé le bateau qui était à quai, il l'a posé 50 mètres à l'intérieur du sol sur les terres.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h30.
On est avec Luc Henri Fage qui ramène photos et films de ses expéditions en Patagonie. Mais toutes ces explications, c'est parce qu'il y a, des savants, des géologues, des spéléologues comme vous, des spécialistes de la faune.
Centre-Terre, dès le début, a été créé par un groupe de spéléologues et de scientifiques passionné par l'exploration, Richard Mer notamment, qui est l'âme scientifique de ce groupe, et c'est lui qui nous a emmenés en Patagonie. C'est lui qui a trouvé un jour un article d'une revue de géologie chilienne, vous savez, ce genre de petit papier qui circule entre, qui est lu par 10 spécialistes dans le monde, et lui, il tombait dessus, phénomène karstique au Chili. Son métier, c'est d'être karstologue. Le karst, c'est une montagne calcaire. Et ici, à Quélus, on habite sur un karst. En français, on dit un kos. Mais c'est malheureusement le mot allemand de Yougoslavie qui a prévalu dans le monde entier en géologie. Donc on habite sur un karst. Lui, il est karstologue, il étudie les paysages des montagnes calcaires. Donc évidemment, il lit ça. Chili, dans sa tête, Chili, pas de grotte, pas de calcaire. Et finalement, il découvre que dans 2-3 îles de l'archipel de Patagonie chilienne, des géologues auraient prospecté et trouvé et décrit des formations géologiques calcaires avec des puits, des surfaces d'érosion, des lapias, des fissures, un paysage lunaire.
Liliane fait les valises, on va aller voir.
Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que je m'en souviens, on rentrait d'une expédition qu'on avait faite en Nouvelle-Guinée, en 93, pour essayer d'explorer un gouffre géant qui perçait un plateau démentiel de Papouasie-Nouvelle-Guinée, encore une idée de Richard, et il nous avait dit, vous savez, il y a pire que la Papouasie, il y a la Patagonie, simplement là, c'est le temps, c'est pas la chaleur et les moustiques, c'est le froid, la glace et la pluie. J'ai dit, Richard, là, tu iras sans moi, j'aime pas le froid. Et puis, ils ont fait un repérage en 95. Et 2 ans plus tard, je me suis retrouvé dans l'expédition suivante, parce que j'avais vu les photos, qu'à la fois ce paysage calcaire était exceptionnel, mais surtout j'avais vu une forêt, la forêt magellanique, qui va vivre dans les endroits qui sont protégés du vent. J'ai dit qu'il y avait un vent permanent, les arbres poussent dans les fissures, dans les creux, au pied des falaises, quand ils sont abrités du vent du nord. Et là, il y a une forêt extraordinaire, une forêt moussue, couverte de parasites, principalement de hêtres tourmentés, tordus. Et je pense que c'est la forêt qui m'a le plus excité dans l'histoire au début.
Alors c'est vrai que quand on regarde les quelques pages que vous mettez à disposition sur le site centreterre.fr, pour l'ouvrage L'île au glacier de marbre, vous dites qu'il comportera 200 photos.
Il y en aura peut-être même plus que ça. Ouais.
Quand on publie 200 photos, combien on en a pris en fait?
Mais c'est un peu mon drame actuellement, parce que moi je suis en charge de la mise en page, et la mise en page c'est d'abord l'iconographie, c'est-à-dire le choix des photos. Il faut trouver un angle, quelque chose qui permette de donner une unité au livre, qui permette de montrer toute la diversité des explorations, aussi bien spéléologiques que de surface, la progression à pied, la progression en zodiaque, etc. Donc on a pas loin de 100 000 photos en archive au cours des expéditions qu'on a faites. Il y a 80 spéléos qui sont venus au cours de cette expédition, passés entre 1 et 2 mois sur ces îles. C'est de l'exploration pure, puisque dès qu'on quitte le bateau ou on met le pied dans le Zodiac, ben on est des explorateurs, on explore, même les cartes maritimes sont pas complètes. Dès qu'on met le pied à terre sur une île, ben c'est d'exploration pure, parce que là il y a même pas de cartes. On travaille avec des photos des Google Earth maintenant, hein, mais les premières années on avait les cartes maritimes qui indiquaient juste les contours des profils et puis les quelques sommets. Et puis on a découvert des choses qu'on n'avait même pas imaginé découvrir, et notamment des vestiges archéologiques. On a eu la chance de découvrir la seule grotte ornée de tout l'archipel de Patagonie. Et ces grottes ornées, elles viennent d'un seul peuple. C'est les nomades de la mer, ce qu'on appelait les nomades de la mer, qui étaient des indiens canoeros, qui étaient placés en canot, qui, jusque dans les années 40-50, avaient un mode de vie nomade. Donc on a du mal à imaginer, quand on est dans ce paysage, avec ces pluies, cette humidité, ce vent, on a du mal à imaginer des familles se déplaçant en canot découvert, des canots qui en plus sont généralement pas tout à fait étanches, donc il faut sans arrêt écoper, avançant à la pagaie, se déplaçant d'une plage à l'autre pour chasser récupérer leur nourriture, qui étaient principalement des moules que les femmes allaient pêcher nues, le corps enduit de graisse, et puis ils chassaient les otaries, les mammifères marins, quelquefois des oiseaux. Donc on s'est retrouvé être sur les traces de ces nomades de la mer, et à découvrir des sépultures avec des vestiges dont un crâne qui a été daté de 4500 ans, qui est le plus ancien connu à ce jour en Patagonie, une grotte avec des peintures rupestres, d'autres sépultures, des traces d'habitat en grotte. Donc, et tout ça, c'est parce que sur ces îles-là, il y a des grottes. Dans le reste de l'archipel, les nomades de la mer se sont déplacés en canot. Ils s'installaient sur une plage, ils avaient un petit tipi, ils ramassaient les moules, et les moules, de façon rituelle, les empilent à l'extérieur du tipi. Et donc, aujourd'hui, on se déplace le long de la côte, et on voit ce qu'on appelle les conchas, les amas coquillés, qui sont les indications qu'autrefois, il y avait des nomades de la mer qui ont campé ici. Il y a des endroits très fréquentés, pas loin de Puerto Natales, du sud, où vous avez sans arrêt, le long de la mer, conchas sur conchas. Hein, vous marchez, vous avez des tas de coquillages, c'est pas la mer qui les a apportés, c'est les nomades de la mer. Ils étaient 6000 au 19e siècle, aujourd'hui il en reste 15. Les 15 vivent à Puerto Eden, au nord de l'archipel, et après la découverte en 2006 de la grotte, tout de suite, dès qu'on... c'était quatre copains qui ont découvert la grotte, je suis rentré juste après, et j'ai travaillé là-dessus sur les peintures, j'ai relevé les peintures, et j'ai étudié ça. Et c'était évident que ça pouvait pas être autre chose que les Indiens nomades de la mer. Et donc c'était la première forme, le premier témoignage artistique laissé par les ancêtres des nomades de la mer d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a réussi à leur prouver, à la face du monde, que non seulement c'était des hommes comme les autres, nous on n'en doutait pas, hein, mais... Certains en avaient douté.
Darwin, oui.
Notamment Darwin, il avait commencé à émettre des doutes parce qu'il avait trouvé au moment qu'ils avaient un mode de vie trop frustre. Et à un moment donné, il s'est demandé.
Il se rasait pas.
Il se demandait s'ils avaient un langage articulé. Il se demandait s'ils n'étaient pas à la limite de l'humanité. Pour tous les explorateurs maritimes. Bon, c'était des pauvres Indiens. Les missionnaires sont arrivés, ont essayé de les amener à la vie sédentaire et dans les églises, en apportant en même temps le choléra. Donc ils sont morts par paquets de centaines. Ce qui fait que de 6000 au milieu du 19e siècle, ils étaient plus que 50 en 1947. Et aujourd'hui, ils sont 15, dont simplement 7 qui savent parler la langue d'origine, le Kaweshkar. Et donc on a réussi à les amener, les ancêtres, dans cette grotte. Et ça a été un grand moment de 2008 parce qu'ils sont venus, et notamment la doyenne des Kaweshkar, Gabriella, elle est rentrée dans cette grotte et elle nous a dit « Ah, mais cette grotte, mais j'y suis déjà venue autrefois avec mon mari. » Mais on a campé à l'entrée. Et effectivement, j'avais repéré un foyer récent, un bonnet en laine, une bouteille en verre, etc. C'était eux qui l'avaient amené, ça. Ils avaient campé une fois. Et puis, pas deux fois, parce qu'ils avaient découvert que si le mauvais temps se levait, ils étaient piégés, ils ne pouvaient plus sortir de cette grotte, parce que son implantation face au Pacifique fait qu'on peut y arriver en canot quand il fait beau, on ne peut plus en sortir s'il ne fait pas beau. Donc, ils n'étaient jamais revenus. Mais elle n'était jamais rentrée dans l'intérieur de la grotte, donc elle n'avait jamais vu les peintures. Donc, ça a été assez étonnant de l'amener là-dedans. Et elle a fait les commentaires en direct, et ça a été enregistré, filmé, pour les enfants des Kaweshkar, pour qu'ils aient un souvenir de ce lieu de mémoire pour eux. C'était très important, cette grotte, pour eux. Et c'est étonnant parce que il y a très très longtemps, je sais pas, j'étais adolescent, et j'avais entendu sur France Culture une émission où il y avait un spécialiste, je sais plus qui parlait des Indiens fuégiens. Alors moi, j'avais découvert au cours de cette émission l'existence des Indiens fuégiens. Il les décrivait comme des gens qui vivaient à poil, couverts de peau d'otari, au pied des falaises, mangeant des moules, au pied du Cap Horn. Et je me suis dit, mais c'est hallucinant d'imaginer que des gens pouvaient vivre à cet endroit-là, de façon aussi visiblement frustre et misérable, en fait. Et donc, je savais pas que 30 ans plus tard, j'allais être parmi l'équipe des gens qui allaient pouvoir découvrir des vestiges archéologiques, retrouver les traces de ces gens-là, et montrer que, comme tous les autres hommes de la Terre, ils ont fait des peintures rupestres sur les parois des grottes. Et qu'ils avaient des sépultures, et qu'ils avaient... Et alors mieux, on a récemment découvert que ces gens-là, qu'on imaginait confinés dans leurs canaux, et leurs plages, et leurs bords de mer, ils étaient capables d'explorer l'intérieur de l'île. Quand on est arrivé à la baleine, à la grotte de la baleine, on n'a jamais pu y arriver par bateau pendant 2 ans. Pendant 2 ans de suite, le Zodiac, on a fait demi-tour chaque fois qu'on se retrouvait dans la mer, parce que la tempête, le vent était trop trop difficile, la houle était dangereuse, il y avait des récifs qui explosaient de partout. Et puis les spéléos de l'équipe, c'est pas des marins, quoi, c'est des terriens. La mer, c'est pas trop notre truc. Donc, ce qui fait qu'on avait décidé d'y aller à pied. Et on a pris un itinéraire qui nous paraissait le plus évident en fonction des cartes, des vallons, etc. Et on arrive, et au moment où on arrive sur le col qui franchit, et on commence à entendre le bruit de l'océan, très loin derrière, là, il y avait une falaise. Et je me suis dit, non, c'est marrant, moi, si j'étais un homme, je serais allé m'installer au pied de cette falaise, quoi, pour bivouaquer. Parce que, je sais pas, elle m'inspirait. Et j'avance. Et au bout de quelques pas, je découvre qu'il y avait des vestiges archéologiques au sol. Il y avait une trace de couchette, il y avait une trace de feu, il y avait des ossements d'oiseaux, d'albatros, un bout de feu, quatre petits éclats de bouteilles de verre anciens qui avaient été taillés comme des outils pour découper la viande. C'était incroyable. On s'est dit, attends, là, on croyait être les premiers, on croyait explorer l'intérieur de l'île. Pas du tout. Je parle même, bon, le fond des gouffres, ça c'est certain qu'on est les premiers parce qu'il faut du matériel, etc. Mais là, et on descend vers la grotte, on arrive à bivouaquer dans une grotte gigantesque qui domine la falaise. Et là aussi, il y avait des restes d'aménagement de la grotte. Et puis on descend. Et enfin, tout ça, c'était pas logique. Une autre équipe, la semaine d'après, arrive à descendre, non pas à la grotte de la baleine, mais sur la falaise, la plage qui était juste avant, qui était fermée par des falaises, elle aussi. Et elle découvre une grotte avec des vestiges en os de baleine. Aménagé un aménagement de cabane en os de baleine. Là, il y avait un truc qui allait pas trop. Donc, on s'imaginait que les Indiens, ils quittaient pas leur canot. Bon, là, non seulement on découvre qu'ils traversent, qu'ils vont jusqu'au bord de la mer. Et je me suis dit, probablement, ils allaient chasser les otaries. Pourquoi ils allaient là, alors qu'ils auraient pu, avec leur canot, aller au débouché d'un sénon, d'un canal, chasser les otaries et revenir? Pourquoi ils traversent cette montagne? Parce que c'est quand même, nous, pour y aller, on a mis 2 jours de marche. À l'aller, c'est épuisant, c'est difficile. Il y a une forêt traversée, il y a des champs de pierre, de calcaire avec des crevasses, on dirait un glacier. C'est pour ça qu'on appelle ça les glaciers de marbre. Donc il y a un truc qui allait pas. Et puis quand en 2008 sont arrivés les Alakaloufs, les Kaweshkar avec nous pour aller venir voir la grotte de la baleine, il y en avait un d'entre eux qui était assez jeune, qui avait une cinquantaine d'années, et avec qui je commence à discuter par l'intermédiaire d'un Chilien de l'équipe pour savoir s'il avait des informations. Alors je voulais pas lui demander. J'ai fait des questions qui étaient pas des questions, qui étaient des questions ouvertes. Il n'y avait pas la réponse incluse dans ma question, parce que c'est un peu le piège en ethnographie, de se dire alors est-ce que vous avez peur des voisins? Non, c'est pas comme ça qu'on procède. Et donc j'ai fini par discuter, et il me dit non mais nous on n'allait jamais sur la côte, c'est pas possible, les anciens, etc. Et puis ça a dû lui revenir d'un coup quand je lui dis, mais voilà, nous on est parti du Cénos au Plat d'Or. Ah, le Plat d'Or, oui bien sûr, les anciens me disaient. Il y a une légende qui raconte que les anciens traversaient la montagne pour aller chasser sur le Pacifique. Je dis, mais ils allaient chasser quoi, des otaries? Non, ils allaient pêcher des jeunes albatros au nid, attraper des jeunes albatros, quand ils sont encore comestibles, parce que l'albatros, quand il est un peu vieux, non seulement la viande est très dure, mais en plus elle pue le poisson. Mais quand il est jeune, il a fait que quand il a, je sais pas, quelques mois, une petite boule de poil, enfin ça ressemble à un petit poulet, quoi. Alors là, apparemment, ils étaient capables de traverser l'île pour aller grimper dans une falaise, parce qu'évidemment, l'albatros, il niche dans des falaises. La falaise qui est juste au-dessus du porche de la baleine. Donc c'est presque à 200-300 mètres au-dessus de la mer, des escalades invraisemblables, à main nue, sans corde, sans rien, sans matériel, pour ramener quelques jeunes albatros. C'est quand même étonnant, quoi. Et donc on a l'explication aujourd'hui, on sait que les gens sont allés partout sur cette île, et comme l'homme est allé partout sur la Terre, et qu'on est rarement le premier, sauf quand on va sous terre. Ça c'est une autre chose. Dans les gouffres, les grottes, on est à peu près certain, pas les grottes en bord de mer, facile d'accès, mais les gouffres dans les montagnes, c'est certain qu'on est les premiers.
C'est Luc Arifage qui est responsable, le pauvre, de la mise en page et de l'iconographie, de la conception graphique de l'île au glacier de marbre, auquel on peut souscrire jusqu'au 15 octobre 2012. Vous tapez boutique.centre-terre.fr et vous avez même quelques pages à feuilleter. Ça commence par magnifiques arcs-en-ciel, parce que je soupçonne qu'avec l'humidité et des rayons de soleil, là, c'est très beau.
Oh, il y a des arcs-en-ciel. C'est un paradis pour les photographes. Ouais. Parce que, bon, quand il pleut, c'est triste à mourir. On voit à 3 mètres, c'est pas le problème. Mais dès qu'il y a un rayon de soleil, et il faut être rapide, hein, faut pas le louper, parce que ça dure une heure, des fois. Hein. Une heure où il y a une heure dans la journée, il y a un beau temps. Là, il y a des lumières incroyables, des arcs-en-ciel, des doubles arcs-en-ciel. La roche calcaire brille, reflète la couleur du ciel. C'est somptueux. Ça explique pourquoi on y est retourné. Parce que c'est une grosse galère. Il faut quand même bien qu'il y ait, on n'est pas des masochistes, hein, il faut quand même bien qu'il y ait quelque chose.
Je me demande.
Voilà. Non. C'est pas du tout du masochisme.
Bon, et là, vous n'avez pas besoin de retoucher ce Photoshop pour enlever les poteaux électriques.
Ah là, on est tranquille.
Il n'y en a pas. On peut télécharger un PDF de démonstration de 16 pages pour être convaincu.
Voilà.
C'est sous la direction de Georges Marbat, conseiller scientifique Richard Maire du CNRS. Ça va être tiré à 7000 exemplaires. Et bien entendu, si vous souscrivez avant le 15 octobre 2012, c'est une super bonne idée de cadeau. C'est à 27 euros au lieu de 35.
Voilà.
Merci Lucas Rive, vous revenez quand vous voulez, parce que moi j'ai l'impression d'entendre des histoires d'explorateurs, c'est un régal.
Merci Yuel.
Le mag, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi, même heure, même punition. Ciao ciao, passez de bon après-midi à l'écoute des programmes de CFM. Yeah.